Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Bram FM. Nous sommes le mardi 16 janvier aujourd'hui. Élise Picon de l'association RL sera à mes côtés pour nous parler du fonctionnement des entreprises et vous verrez que les petites entreprises qui représentent tout de même 3/4 des entreprises en France et qui sont les grandes oubliées des pouvoirs publics ont bien plus de mérite que les grosses PME. Enfin, c'est pas moi qui le dis. Toujours en première partie d'émission, Françoise Pinault représentante du SNUIPP-FSU. Elle est au micro de Thomas pour nous parler de la suppression de postes dans l'Académie de Limoges dans le second degré à la rentrée 2024. À 13h30, vous entendrez le journal régional proposé comme chaque jour par l'équipe du Graal. En deuxième partie d'émission, David Molto, en charge du relais Artothèque de Peuple et Culture, sera mon invité pour nous parler d'une soirée de cinéma documentaire autour de l'art contemporain. Enfin, pour la première fois, la Haute-Vienne va être représentée au Salon de l'Agriculture. Le stand qui accueillera les visiteurs a été conçu par des élèves en design du lycée Raymond Lovy de la Souterraine. Vous l'entendrez à 13h50 dans la chronique en Limousin. Et enfin, la météo à 13h55. Vous êtes ici sur les ondes de Bram FM et jusqu'à 14h en direct. Commence cette émission avec le point info de la rédaction. Lucas L, le meurtrier de Justine Vérac, comparaît devant le tribunal de Toulon ce moment même, mais pour une toute autre affaire, Thomas.
Le jeune homme de 22 ans est accusé d'incendie volontaire. Les faits qu'on lui reproche sont antérieurs au meurtre qu'il aurait commis en 2022. Il est soupçonné d'avoir mis le feu à une grange de Saint-Hilaire-Péroux 2 ans auparavant. L'accusé est alors âgé de 19 ans et effectue un stage dans une exploitation agricole. Les enquêteurs déterminent rapidement la nature volontaire de l'incendie, étant donné qu'il repère 2 foyers. Les soupçons se tournent rapidement vers le jeune Lucas. Une semaine avant l'incendie, il s'était effectivement fait remonter les bretelles par son tuteur, notamment sur ses horaires d'embauche et la qualité de son travail. Autre élément qui oriente les enquêteurs vers le jeune homme, le silo à grains sécurisé de l'exploitation est ouvert et dégradé au moment des faits. Aucun signe d'effraction n'est relevé, c'est donc forcément un membre de l'exploitation familiale qui a commis ces actes. Une plainte contre X est alors déposée par les victimes. Le jeune Lucas est placé sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'il doit se présenter régulièrement auprès des forces de l'ordre pour vérifier qu'il n'est pas n'importe où dans la nature. Il ne respecte pas les conditions de ce contrôle et est alors incarcéré en décembre 2020. Il est finalement remis en liberté en avril 2021. Un an et demi plus tard, Justine Vérac est assassinée à la sortie d'une boîte de nuit de Brive. Là encore, Lucas, elle, est rapidement le principal suspect. Les deux affaires ne sont pas en lien direct et le jeune homme bénéficie de la présomption d'innocence, mais les débats sur la personnalité de l'accusé devraient être particulièrement intéressants dans l'affaire Justine Vérac, dont on ne connaît pas encore la date du procès.
Et puis la campagne de recensement 2024 doit commencer à Tulle, alors que les chiffres de l'évolution de la population entre 2015 et 2021 viennent d'être publiés par l'INSEE, Thomas.
La campagne de recensement commence jeudi pour une durée d'une semaine. 747 logements sont concernés par le recensement cette année. Il est important de rappeler que c'est un acte citoyen, obligatoire, et que les données recueillies restent confidentielles. Si vous n'êtes pas sûr d'ailleurs que la personne qui toque à votre porte soit un agent de recensement, vous pouvez leur demander leur carte officielle. Et puis, si vous n'aimez vraiment pas être dérangé, vous pouvez toujours répondre au questionnaire sur le site internet le-recensement-et-moi.fr. Concernant les chiffres publiés par l'INSEE dont tu parlais, sur la période de 2015 à 2021, Tulle aurait perdu environ 400 habitants. Mais pas de panique selon la municipalité, puisque d'autres chiffres sont à prendre en compte, notamment le nombre d'enfants scolarisés, le nombre d'électeurs inscrits ou encore de foyers fiscaux. Et de ce côté-là, les chiffres sont plutôt stables. Je précise simplement, pour ceux qui se demandent d'ailleurs à quoi servent les chiffres du recensement, eh bien déjà tout simplement, plus une commune a d'habitants, plus la dotation d'argent de la part de l'État est élevée. Et puis ça permet également aux communes de pouvoir adapter leurs politiques, comme l'implantation des services publics, les écoles, les hôpitaux, les réseaux de transport, et etc.
Après 7 mois de travaux, la boîte de nuit de Tulle rouvre ses portes. Le nocturne laisse place à l'Omnia.
Et oui, qui dit relooking dit nouveau nom. Et j'ai cherché pour vous la signification de ce mot. Omnia, ça nous vient du latin et ça veut dire toutes les choses, comme dans le mot français omniscient, qui veut dire savoir toutes les choses. Je pense que le message est assez clair de la part du jeune DJ qui a repris la discothèque, Johan Müller. Il souhaite faire un peu de tous les genres musicaux et pour un peu tout le monde. Petite liste exhaustive de ce qui est prévu. Le jeudi soir, ce sera soirée étudiante, comme le veut la tradition. Personne ne sait d'où ça vient d'ailleurs. Le vendredi, c'est After Work avec des musiques plus années 80, 90, voire jusqu'à 2000. On est donc plutôt sur une tranche d'âge de 30 à 50 ans. Tu rentres rentre dedans, Ève.
J'ai pas 30 ans, Thomas, mais les années 2000, bah, c'est mon créneau.
Et puis le samedi soir, ce sera des soirées open avec des DJ qui se relayeront. Là, on aura un peu de tout selon les envies et spécialités des disques jockeys. Et Johan Muller cherche même à faire venir les plus âgés d'entre nous avec des thés dansants les dimanches après-midi.
Ça, c'est ton créneau.
Exactement, moi j'aime bien les petits vieux. Et puis pourquoi pas consacrer les samedis après-midi aux tout petits aussi. Ça, c'est moi.
C'est mon créneau. Ça, c'est notre créneau. Ouais.
Et puis, gros point positif, le jeune repreneur ne souhaite pas forcément inciter ceux qui viennent à boire. Il souhaite même proposer des tarifs pour les Sam. Et on le sait, Sam, c'est celui qui ne boit pas.
L'Omnia ouvrira ses portes vendredi. Merci beaucoup, Thomas. On te retrouve un petit peu plus tard dans l'interview que tu nous proposes juste après. Ce sera l'interview de Françoise Pinault du SNUI PPFSU. Ce sera juste après la chronique de RL. À tout à l'heure.
Vous êtes ici sur Bram FM en direct jusqu'à 14h.
Bonjour Élise Picon.
Bonjour.
Pour cette première chronique de 2024, tu avais envie de nous parler de ce qu'est une entreprise et de nous décrire comment elle fonctionne.
Tout à fait. Et quand on parle d'entreprise, en fait, on fait une référence à une pluralité de situations. Chaque entreprise est différente et représente un système plus ou moins complexe ou en tout état de cause relativement spécifique. Cependant, on utilise toujours le même terme, c'est-à-dire celui d'entreprise pour désigner des organisations a priori très différentes. Des organismes qui produisent des services ou des produits, des grandes entreprises ou des entreprises composées d'une personne, des entreprises à but non lucratif, ou d'autres relevant de ce qu'on appelle de l'économie sociale et solidaire pour lesquelles la recherche de lucrativité est limitée ou nulle.
Alors pourquoi on utilise le même terme, celui d'entreprise ?
Eh bien c'est qu'en réalité, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité ou même leur territoire ou leur pays d'implantation, toutes les entreprises ont des points communs. Et vous savez lesquels ? Non.
Moi, je sais pas.
Toi, tu sais pas. Et ben, je
c'est pour dire. Ça que c'est pour ça que tu es là.
C'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ça. Eh bien, elles fonctionnent. Pour qu'elles fonctionnent, il faut qu'il y ait en leur sein des compétences en charge d'assurer différentes fonctions. Et quelle que soit la nature de l'activité, on va toujours retrouver les mêmes fonctions au sein d'une entreprise.
Quelles sont ces fonctions qui permettent donc à l'entreprise de fonctionner ?
Eh bien, celle à laquelle on va penser le plus naturellement, c'est la fonction qu'on appelle la fonction production. C'est-à-dire celle qui va concentrer les compétences utiles à la fabrication d'un produit ou d'un service. Je m'explique, dans une entreprise de coiffure, il y a une personne, une ou plusieurs personnes d'ailleurs, qui savent couper des cheveux, faire une coloration, etc. Dans une entreprise de type café, il y a une ou des personnes capables de créer une ambiance, de mettre le client à l'aise, de prendre sa commande, de le servir, etc. Ensuite, on va retrouver une fonction qu'on appelle la fonction commerciale, c'est-à-dire les compétences mobilisées pour attirer et fidéliser des clients, c'est-à-dire être capable de communiquer auprès des bonnes personnes, avec des bons outils, un bon message, une bonne posture. En somme, dans une entreprise, doit y avoir une personne qui sait vendre. Mais si dans une entreprise, il doit y avoir des personnes qui savent vendre, il doit aussi y avoir des personnes qui savent acheter. Acheter des bons produits avec des modalités commerciale correcte, entretenir des relations avec des fournisseurs, etc. Tout ceci est important. Troisième fonction, on va retrouver ce qu'on appelle la fonction financière avec des compétences et outils mobilisés pour s'assurer de la rentabilité et de la solvabilité de l'entreprise. Bien plus large que la comptabilité, il s'agit en fait ici de savoir collecter et analyser les informations de nature financière pour prendre des décisions, faire des hypothèses sur l'évolution de la situation financière de l'entreprise. En quatrième position, on retrouve la fonction administrative où on va retrouver quelqu'un qui est en charge l'édition de devis, de factures ou encore qui assure les relations avec les organismes sociaux ou fiscaux et qui va s'acquitter des différentes échéances avec ces organismes. On retrouve cinquièmement la fonction ressources humaines, et ce quelle que soit la taille de l'entreprise. Et dans cette fonction, on va retrouver une ou des personnes qui va veiller à ce que les compétences et la motivation soient au rendez-vous au sein de l'entreprise et de voir s'il n'y a pas des actions à conduire pour adapter les compétences au regard de besoins de l'entreprise ou pour conserver ou dynamiser la motivation des troupes, y compris quand la troupe est composée d'une seule personne. On retrouve aussi une fonction de recherche et développement, là encore une ou plusieurs personnes qui va être en veille sur les évolutions du secteur, les nouveaux produits, les nouvelles réglementations, les nouvelles attentes de la demande, les nouveaux concurrents, les nouveaux moyens de communication, etc. etc. pour faire en sorte, en quelque part, que l'entreprise va évoluer sereinement dans un contexte qui lui aussi évolue. Et enfin, on va retrouver dans toutes les entreprises la fonction direction, le plus souvent assurée par le chef d'entreprise qui, comme l'indique le nom de sa fonction, doit donner la direction. Voilà, fixer des objectifs et le cap à suivre.
Donc là, tout ce que tu viens de décrire, c'est le fonctionnement d'une entreprise, quelle que soit sa taille ou son secteur, Élise.
Exactement. Et en vous disant ça aujourd'hui, j'avais en réalité envie de rendre hommage aux petites entreprises. Et le terme de petit n'est absolument pas péjoratif, mais désigne la taille de l'entreprise. Puisqu'en fait, il faut que toutes ces fonctions soient assurées pour garantir la pérennité d'une entreprise. Or, dans de grandes entreprises, le dirigeant va pouvoir s'appuyer sur plusieurs personnes ou des services dédiés, alors que dans la petite entreprise, c'est souvent la même personne, à savoir le créateur ou la créatrice, qui va devoir assumer ces différentes fonctions et porter ensemble toutes ces différentes casquettes.
Ainsi, contrairement aux idées reçues, il est donc bien plus difficile de gérer une petite entreprise qu'une entreprise de grande taille.
Exactement, et je voulais partager ce message pour rendre hommage à ces hommes et femmes qui entreprennent, qui prennent des risques en créant leur entreprise pour créer leur propre emploi et qui malheureusement peuvent parfois être délaissés des politiques de développement économique et des politiques sociales parce qu'ils ne représentent pas assez d'emplois. Voilà, et j'avais aussi envie de partager un chiffre avec vous. En France comme en Corrèze, 3/4 des entreprises comptent aucun salarié. Leur importance dans l'écosystème n'est donc pas sous-estimée.
Merci beaucoup Élise, merci aussi de porter la voix des petites entreprises. Quelles sont les actualités de l'association RL en ce moment ?
Eh bien, pour ce début d'année, le 18 et 19 janvier à Saint-Germain-les-Vernes, dans nos locaux, nous vous proposons 2 jours d'atelier intitulé « Entreprendre en économie sociale et solidaire » pour les personnes portant un projet d'utilité sociale ou d'intérêt collectif, avec au programme de quoi vous aider à décrypter les principes de l'économie sociale et solidaire, les formes juridiques spécifiques à ce secteur d'activité, le rôle des partenaires institutionnels et privés qui peuvent intervenir dans ce type de projet, et bien sûr de la méthode de construction de projet. Aussi, une nouvelle édition des Apéridées, les actions que l'on mène pour valoriser la prise d'initiative et vos idées entrepreneuriales, le 25 janvier 2024 de 18h à 19h30 au centre de découverte du Moyen-Âge à Égletton. Donc l'idée de ces rencontres, je le rappelle, c'est de proposer aux personnes qui ont une idée, c'est-à-dire soit un créateur, un citoyen, une entreprise déjà installée, de venir présenter, pitcher son projet devant un public bienveillant qui est composé d'habitants ou d'acteurs du territoire. Voilà, le tout afin de bénéficier de retours de l'assemblée bienveillante et surtout de créer et dynamiser son réseau. Voilà, le tout dans une ambiance conviviale, bienveillante et qui plus est dans un lieu qui mérite d'être davantage connu. Et enfin, la poursuite des rencontres du réseau En Avant Toutes, qui est un réseau de dirigeantes d'entreprises qui permettent aux femmes créatrices de se rencontrer, d'échanger, de partager ses expériences, le tout autour d'un petit déjeuner partagé. Et donc la prochaine rencontre du réseau aura lieu le 5 février matin à Tulle dans les locaux d'Initio et à Brive, donc le même matin, le 5 février, dans les locaux de la base. Et pour cette prochaine rencontre, le thème est le suivant, développer mon activité, mon programme pour 2024. Alors je rappelle que ces actions sont ouvertes à tous et toutes, y compris aux personnes qui ne sont pas accompagnées par l'association et qu'elles sont bien sûr prises en charge par nos partenaires et entièrement gratuites. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 05 55 29 00 50 pour avoir plus d'informations ou éventuellement vous inscrire.
Merci beaucoup, Élise.
Où et quand viendra-t-elle et comment sera-t-elle en robe de velours ou vêtue de dentelle? Chargée de nostalgie ou porteuse d'ivresse, la vieillesse de Deviendrai-je un vieux singe, un vieux fou, un vieux con, mandarin sclérosé, radoteur ou bougon, ou m'accordera-t-elle un peu de sa sagesse, la vieillesse? Viendra-t-elle comme une amie, comme une dame aux cheveux blancs, à l'air paisible et souriant, qui viendrait partager mes nuits, ou comme l'ultime adversaire, celle qui reste à vaincre encore avant de rencontrer la mort et de s'endormir sous la terre? Où et quand viendra-t-elle? Et comment sera-t-elle? En robe de velours ou vêtue de dentelle, chargée de nostalgie ou porteuse d'ivresse, la vieillesse? Fera-t-elle de moi un sinistre dévot, préoccupé de Dieu beaucoup plus qu'il le faut? Où me donnera-t-elle droit à la paresse, la vieillesse? Serais-je comme un arbre sec qui semble défier le temps et qui supporte bravement et coups de hache et coups de bec, ou le vieux beau qui vieillit mal et regarde avec inquiétude son beau crâne qui se dénude et ses dents qui se font la malle? Où et quand viendra-t-elle et comment sera-t-elle? En robe de velours ou vêtue de dentelle, chargée de nostalgie ou porteuse d'ivresse, la vieillesse? Je dis qu'il est trop tôt, mais je sais qu'il est tard. Je veux être un vieil homme sans être un vieillard, et vivre chaque instant, tout le temps que me laisse la jeunesse.
La vieillesse de Georges Moustakis sur Bram FM.
Vous êtes ici en direct sur Bram FM.
Et tout de suite, on écoute l'interview réalisée ce matin par Thomas. François Spineau était au micro de Bram FM.
Vous êtes François Spineau, donc vous êtes représentante pour le SNUIPP FSU 19, c'est bien ça?
La FSU-SNUIPP, oui, tout à fait.
Et alors aujourd'hui, vous venez pour nous parler d'une annonce qui a été faite par l'Académie de Limoges d'une suppression de 42 postes, et on parle plutôt de 34 postes, si je ne me trompe pas, mais le syndicat dont vous êtes la représentante parle plutôt de 42 postes parce que il y a un flou en fait qui est entretenu par l'Éducation nationale sur la nature des postes qui ne vont pas être remplacés à la rentrée 2024. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de ces postes qui vont être supprimés?
Alors, sur la polémique autour des chiffres, le chiffre officiel, c'est moins 34, mais nous n'avons pas eu de précision sur comment cette variante de 8 postes va être budgétisée. Donc, nos inquiétudes ne sont toujours pas levées par rapport à ce point. Donc, nous espérons évidemment que ce ne sera que moins 34, parce que c'est déjà un prélèvement qui est très conséquent. L'année dernière, nous avons également eu une dotation académique négative. Donc, il y avait moins 27 7 postes l'année dernière par l'Académie de Limoges, ce qui s'est traduit concrètement par 7 fermetures de classes en Corrèze. Donc là, avec, soyons optimistes, prenons l'idée du moins 34, même si on attend quand même, la question sera posée à la rectrice lors du CSA académique de lundi prochain, où nous connaîtrons aussi concrètement combien de postes en moins pour la Corrèze, pour la Creuse et pour la Haute-Vienne. Donc nous ne manquerons pas de lui demander comment cette variable de 8 postes va être budgétisée. Nous, comment nous prenons cette suppression de postes, enfin ce prélèvement de postes, eh bien nous, cela ne nous enthousiasme absolument pas. Au contraire, c'est un signal qui est encore donné d'une préoccupation uniquement comptable. En fait, on regarde, on n'a de cesse de nous dire ministre, rectrice, recteur, d'Azen, que la démographie est en baisse. Alors oui, ça, on ne peut pas le nier. Mais dans le même temps, il faut savoir que l'école publique, elle a été tous les collègues qui étaient en poste, mais pas réellement devant élèves, au sens où on l'entend habituellement, c'est-à-dire le maître ou la maîtresse devant la classe, une grande partie de ces postes-là, en Corrèze en particulier, sur les cartes scolaires de 2008, ont été retirés. Donc nous, nous militons pour un autre regard, à savoir en particulier la prise en charge de la difficulté scolaire. Parce que actuellement, il faut savoir qu'en Corrèze, il n'existe plus de réseau d'aide et de soutien aux élèves en difficulté complet. Ces réseaux, ils sont composés normalement d'un psychologue et de deux enseignants spécialisés, un pour les élèves ayant plus des difficultés d'ordre pédagogique et autre poste pour les élèves ayant plus des difficultés d'ordre comportemental. Et ça, il n'y a plus rien en Corrèze, plus aucun réseau complet.
Et d'ailleurs, dans les 34 ou 42 postes potentiellement supprimés, prélevés.
Supprimés, voilà, très concrètement. Très concrètement, ça va donner des fermetures de classe.
Parmi ces postes, ça peut être donc aussi des gens qui travaillent dans l'administratif aussi.
Non, alors nous, non. Ça ne nous concerne pas. Ça. Malheureusement, les collègues qui travaillent aussi dans l'administratif sont très impactés et les services de la SDEN fonctionnent de moins en moins bien parce que les personnels à la cité administrative doivent eux aussi toujours faire mieux avec moins.
Et alors, l'Académie de Limoges justifie ces prélèvements de postes, ces suppressions de postes, par la chute des effectifs depuis une dizaine d'années, 10-15 ans. Par exemple, Franck Cutillas, directeur de l'Académie des services de l'éducation nationale, explique qu'on a perdu 200 élèves cette année, rien qu'en sur l'Académie de Limoges. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cet argument pour justifier cette suppression de postes ?
Alors, je le répète, la baisse démographique, elle est indéniable et elle est nationale. Hormis quelques départements où la tendance est à l'inverse, au niveau national, voilà, c'est factuel, il y a moins d'élèves. Mais nous pensons au contraire que c'est l'occasion d'abaisser très significativement le nombre d'élèves par classe, parce qu'on sait très bien, l'école a beaucoup changé, le public, enfin, maintenant, depuis la loi de 2005, nous sommes tenus d'accueillir tous les élèves dans leur école de secteur. Il y a le grand domaine de l'école dite inclusive, qui ne peut pas se faire sans moyens, et qui ne peut pas non plus se faire dans des classes surchargées. Donc, factuellement, quand on diminue le nombre d'enseignants au prétexte qu'il y a moins d'élèves, eh bien, on va augmenter, alors, par chez nous en Corrèze, on va augmenter le nombre de classes à plusieurs niveaux. Non pas que ce soit un problème, mais enfin, une classe à 3 niveaux avec 20 élèves, c'est pas la même chose qu'une classe à 3 niveaux avec 27. Je veux dire, c'est assez compréhensible pour tout un chacun. De même, quand vous regroupez, quand plus il y a d'élèves dans une classe, plus on augmente les problèmes, que ce soit des problèmes de relations entre les enfants, les difficultés de suivi, etc. Et l'autre gros problème sur lequel nous nous battons quand même depuis déjà plus d'un an pour essayer de faire entendre raison à l'administration, c'est le problème du remplacement. Parce que on a de cesse de nous dire, de nous présenter des pourcentages en nous disant qu'on est à un taux de remplacement très satisfaisant. Mais enfin, concrètement, le nombre de parents qui vont vous dire que leur enfant n'a pas eu de maître ou de maîtresse et qu'ils ont été répartis dans les autres classes, voire parfois que les collègues ont demandé aux parents de, dans la mesure du possible, garder les enfants, ça ce sont des réalités. Donc on nous dit c'est un pourcentage, mais enfin quand on est concerné, quand on est dans une telle pénurie au niveau du remplacement, quand un enseignant doit subir une intervention chirurgicale qui va être suivie de 4 semaines d'arrêt parce que c'est comme ça, les enfants vont voir se succéder 3, 4 ans, collègues différents pour remplacer avec des périodes où il n'y aura personne. Donc là, on n'est pas dans un service public d'éducation de qualité.
Et ça amène aussi à prendre des contractuels en poste de remplaçant, en fait.
Sur des postes d'enseignants. Cette année, la Corrèze a recruté 17 contractuels. Nous sommes le département de l'académie qui en a recruté le moins. En Creuse et en Haute-Vienne, cela explose littéralement. Donc tout ça aussi est la réalité et c'est l'aveu du dysfonctionnement parce qu'on enlève des postes de titulaires, on supprime des postes, donc ça veut dire concrètement qu'on diminue le nombre de postes qu'on court et qu'on diminue la masse de fonctionnaires parce qu'évidemment, à la base, c'est quand même ça un peu le problème. Et en contrepartie, on va embaucher des contractuels. Alors, loin de nous, syndicalement, l'idée de porter, de méjuger les collègues qui s'engagent sur ces postes de contractuels, mais il faut quand même savoir que ce sont des collègues, des gens qu'on envoie en classe sans formation, ou à part peut-être des fois 24 heures, et sur des situations qui sont parfois tendues dans des écoles où la situation n'est pas facile.
Et est-ce qu'on peut dire, selon vous, ça traduit une certaine libéralisation progressive du système éducatif, ce problème du contractuel ?
Alors, absolument, vous dites quelque chose de tout à fait exact. Les enseignants sont des fonctionnaires de l'éducation nationale. Les contractuels sont des vacataires qu'on emploie le temps où on en a besoin. Et donc, quand on n'en a plus besoin, on leur dit au revoir et peut-être merci, mais ça, c'est pas toujours sûr. Voilà. Oui, donc, nous souffrons véritablement de la politique libérale des gouvernements qui se succèdent, évidemment. Le service public d'éducation n'assure pas ses missions aujourd'hui. Les usagers, les parents s'en rendent compte au quotidien, mais il ne faut pas se tromper de cible quand on considère qu'il y a des paquets d'heures pas remplacées. Voilà. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que les enseignants ne sont pas, au contraire, plus absents que les autres professions ? Les chiffres prouvent que les enseignants ne sont pas plus absents que dans le privé. Donc, vilaine campagne de discrédit qui est lancée contre la profession, elle n'est pas de bon augure.
Et justement, j'en profite de qu'on parle de ça pour vous poser une question sur la nouvelle ministre d'Éducation nationale, Madame Oudéa Castéra. Qu'est-ce que vous pensez de son arrivée au ministère ? Est-ce que pour vous, comme beaucoup d'autres en France en ce moment, ça va continuer justement à alimenter cette libéralisation de l'éducation nationale, cette casse de l'éducation nationale ?
Ah oui. Je n'ai aucun doute là-dessus. Enfin, nous n'avons aucun doute là-dessus. Elle est dans la lignée de ses prédécesseurs. C'est absolument évident. Elle va appliquer la politique voulue par le président Macron. C'est-à-dire, vous le dites très très bien, la casse du service public d'éducation et des départements ruraux comme les nôtres, on va payer un sacré tribut.
Oui, il y a aussi la séparation entre école privée et école publique. Là, on a l'impression que le fossé s'agrandit petit à petit entre le niveau d'éducation proposé. Est-ce que c'est vraiment le cas dans les faits ?
Alors, je dirais de ça comme des promesses qui n'engagent que ceux qui veulent les croire. De toute façon, la politique menée par le gouvernement Macron, elle apporte sur un plateau... Elle donne tous les avantages à l'école privée. C'est assez honteux de constater tous les cadeaux qui leur sont faits parce que le président Macron s'était enorgueilli d'être le président qui allait avoir rendu l'école maternelle obligatoire dès 3 ans. Factuellement, c'était déjà ça. Il n'y avait quasiment pas d'enfants qui n'allaient pas à l'école à 3 ans. Par contre, cette mesure, elle oblige toutes les communes à payer pour les enfants qui vont à l'école. Donc, il y a certaines communes qui se trouvent à devoir payer pour des enfants qui sont scolarisés dans le privé. Le procès là qui nous est fait, où on est toujours absent dans le public, où la qualité de l'enseignement dans le public se dégrade, ce sont des cadeaux qui sont offerts au privé. Après, dans les faits, ce n'est pas tout à fait exact. Et puis, il faut quand même savoir que dans le privé, les directeurs d'établissements peuvent se permettre de refuser des élèves. Et heureusement que l'école publique est l'école publique de tous les enfants, à l'inverse.
Eh bien, merci beaucoup Françoise Pinault. Vous êtes, je le rappelle, représentante pour le SNUIP et FSU 19. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Bonne journée.
Au revoir.
Et je me permets de vous recommander une étude publiée l'année dernière par la sociologue Sandrine Garcia, enseignante de la vocation au désenchantement, publiée l'année dernière aux éditions La Dispute. Cette étude nous apprend que les démissions augmentent de manière très significative au sein des enseignants français. Des démissions que la sociologue Sandrine Garcia corrèle avec la dégradation progressive des conditions de travail dans l'enseignement public. Enseignante de la vocation au désenchantement aux éditions La Dispute. Merci Thomas pour cette interview. Dans quelques instants, nous serons avec David Molto qui va nous parler d'une soirée documentaire autour de l'art contemporain. Ce sera juste après le journal régional. Vous êtes ici sur Bram FM, il est 13h32.
L'actualité en Limousin et Périgord, le journal des radios associatives libres. Sébastien Péjou.
Bonjour à tous. Mardi 16 janvier 2024, la qualité de l'air s'améliore un peu aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine. Les conditions météorologiques sont favorables à la dispersion des particules fines et les augmentations de température limitent l'usage des moyens de chauffage qui contribuent à l'émission de particules, indique Atmo Nouvelle-Aquitaine. C'est l'observatoire de la qualité de l'air dans la région. La Dordogne et la Corrèze, ça va beaucoup mieux qu'hier. La qualité de l'air est encore dégradée sur la plus grande partie de la Haute-Vienne et sur l'est de la Creuse aujourd'hui, voire même mauvaise pour quelques communes autour de Boussac. Avec la baisse de la consommation de chauffage, le vent et la pluie, les particules devraient disparaître et la situation va donc s'améliorer au fil des heures. Il est accusé du meurtre de Justine Vérac. Il est aussi accusé d'être l'auteur d'un incendie volontaire. Lucas passe devant le tribunal correctionnel de Tulle ce mardi. Aucun lien entre l'affaire du meurtre de la jeune Lotoise en octobre 2022 et cet incendie criminel de début août 2020, une nuit durant laquelle le hangar d'une ferme est parti en fumée, ferme dans laquelle l'accusé était en stage. Toujours en matière de justice, les blaireaux ne seront pas chassés en Limousin. Les arrêtés prévoyant des périodes complémentaires de vénerie sous terre sont annulés par le tribunal administratif de Limoges. Après avoir été suspendu une première fois, un autre jugement s'était déroulé le 21 décembre dernier. Le délibéré a été rendu en fin de semaine dernière. Face aux préfectures de Corrèze, Creuse et Haute-Vienne, des associations contestaient la fiabilité des estimations de population de blaireaux et la réalité des dégâts qu'ils commettent. Nous sommes en plein dry January. C'est un défi personnel qui consiste à ne pas boire d'alcool pendant le mois de janvier. Mais contrairement aux autres initiatives comme par exemple le mois sans tabac, Santé publique France ne s'associe pas à cette action, les lobbies alcooliers étant particulièrement puissants en France. Anne-Laure Le Joliffe.
En fait, c'est plutôt de se dire, bon, à partir du 1er janvier jusqu'à la fin du mois, est-ce que pendant un mois, j'arrive ou pas à tenir sans boire d'alcool ?
Valérie L'Herbier, chargée de prévention à Addiction France en Creuse.
Et trouver des alternatives aussi, parce que des fois, les gens ne se posent même pas la question d'une alternative, étant donné que ça va être la première chose qui va être proposée. Des fois, ça peut permettre aussi à des gens qui ont des maladies, alors X ou Y, pas forcément très grave, mais de se rendre compte qu'en diminuant une consommation d'alcool, bah, ça peut aller vachement mieux.
Santé publique France ne suit pas le Dry January à cause de pression des lobbies alcooliers en France.
Ouais, contrairement au mois sans tabac, par exemple.
André Nguyen, directeur de la coordination régionale Addiction Nouvelle-Aquitaine.
Qui a clairement un soutien du gouvernement, mais également, on va dire, au niveau économique, la France n'a pas déconnu du tabac. Et surtout, l'image de l'alcool est associée un petit peu à la France, et quand il y a l'alcool, c'est le vin. Et nous, on s'associe avec d'autres associations au niveau national pour développer ce que l'État ne souhaite pas développer au niveau de nos territoires.
Si vous voulez tenter le Dry January et avoir des conseils, je vous rappelle le nom des applications. Try Dry, donc T-R-Y-D-R-Y, et la version française, le défi de janvier.
C'était Anne-Laure Le Joliffe de RPG. Pour le Graal.
Merci Anne-Laure. C'est dans une vidéo postée hier sur les réseaux sociaux que la ville de Limoges a dévoilé son projet pour le futur palais des sports de Beaublanc. Un projet à 49 millions d'euros hors taxes qui comprend 800 places supplémentaires dans les tribunes, une halle multisport de 3300 places assises et une halle avec un double plateau de basket pour les entraînements entouré de 310 places assises. Dans le projet, l'isolation des bâtiments sera complète, des arbres seront replantés et des panneaux photovoltaïques installé. Les travaux pourraient débuter en fin d'année pour accueillir le public en 2029 à l'occasion des 100 ans du Limoges CSP. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.
Vous êtes ici en direct sur Bram FM.
Et dans quelques instants, à 13h50, vous entendrez la chronique en Limousin suivie de la météo. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés David Molto, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en charge du relais Artothèque de Peuple et Culture depuis 2007, un fonds qui dispose d'environ 500 œuvres d'art contemporain dédiées aux prêts que vous connaissez sur le bout des doigts. Vous menez un travail de terrain avec des particuliers, des scolaires, des adultes et parfois des réfugiés ou des personnes éloignées de l'art pour diverses raisons. Le 19 janvier prochain, vous proposez à partir de 18h une soirée autour du cinéma documentaire et de l'art contemporain. 4 films seront projetés dans les locaux de Peuple et Culture, films que vous avez choisis avec Federico Rossin. Ensemble, nous allons décortiquer la manière dont cette programmation a été pensée. Vous dites que c'est l'occasion pour vous de penser à comment on s'y prend pour filmer l'art et les artistes, donc de vous atteler au fond et à la forme. Federico Rossin vous a proposé une douzaine de films qui s'attellent à cette thématique. Quels étaient vos critères de sélection, David Molto ?
Bien, mais ça oui, c'est une question importante. J'ai un peu évacué d'emblée les films qui se rapportaient un peu à des artistes voilà, plus anciens, des monstres un peu de l'art moderne, hein, comme Picasso, comme Francis Bacon. Et je voulais vraiment... j'ai choisi en fait les artistes les plus contemporains, les plus récents, les plus actuels, et ceux qui posaient des enjeux un peu différents de la peinture, sculpture, telle qu'on l'a pratiquée pendant des siècles, en fait. Voilà. Donc, parce qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup de médiums très très différents dans l'art, et voilà, je voulais voir un petit peu faire une sélection plutôt sur ce genre là voilà.
Et donc là on parle plutôt du fond, autour de la forme, est-ce que vous aviez une sélection autour de la manière de filmer ces artistes dans leur processus de création, dans leur univers, qu'est-ce qui vous intéressait?
Alors oui, c'est en fait quand on fait une programmation comme ça, puisque les gens de Peuple et Culture ou proches ont été invités à travailler avec lui, à faire des programmations très différentes sur des sujets de prédilection pour eux.
Avec Federico Rossin.
Avec Federico Rossin, oui, tout à fait. Ça pouvait être l'agriculture, ça pouvait être la banlieue. Enfin voilà, il y a eu pas mal de thématiques abordées. Moi, évidemment, sur l'art, c'était un peu évident. Et par rapport à la question, ces questions de forme, bah justement, j'étais un peu j'avais envie de connaître ça. Et lui, c'est un véritable vidéothèque sur pattes, on peut dire. Donc, il est capable d'aller chercher des choses qui ont vraiment des formes étonnantes. Donc, pour moi, c'était un peu une découverte. C'est pas un critère. J'ai pas. Évidemment, justement, le film sur le mouvement dada, il a une forme dadaïste. Hein. Donc, c'est ça qui me plaisait déjà. C'est pas un documentaire juste simple qui présente Dada, mais c'est vraiment un film dadaïste. Il est complètement une forme déjà très particulière. Et les autres films s'adaptent aussi à chaque artiste, surtout pour Yannis Kounelis, un film très très beau, très poétique. Et peut-être les deux autres films ont une forme un peu plus classique, mais voilà, ça reste des films qui sont vraiment superbes à voir, quoi.
Dans cette sélection, celui qui vous paraît le plus essentiel, celui dont vous parlez, c'est Deutschland Dada, réalisé en 1969 par Helmut Herbst. Parlez-nous de ce film, David Molto.
Alors, déjà, oui, moi, j'aborde ça assez souvent, enfin, quand je peux, avec des élèves, parce que je vois beaucoup d'élèves. Et c'est pas très facile de parler de cette époque-là, mais pourtant, elle est essentielle pour nous aujourd'hui, parce que c'est vraiment une période où ces artistes, ces collectifs d'artistes, sous des formes qui n'existaient pas avant, ont vraiment renversé la table, et ils ont bouleversé complètement les frontières de l'art tel qu'on le connaissait jusqu'à la fin du 19e, début 20e. Et en mélangeant à peu près toutes les formes, en étant très irrévérencieux en plus, et politiquement très très marqué. En plus, on était en plein chaos de la Première Guerre mondiale. Donc tout ça, ça a fait qu'aujourd'hui, ben, ce mouvement, il est toujours d'actualité, en fait. Hein. Voilà, ça me paraît un mouvement complètement contemporain, mais c'est venu avec un petit peu de retard, en fait. Ça s'est diffusé dans les pratiques doucement pendant un siècle, quoi.
Et c'est cette question d'héritage que vous abordez par la sélection, donc ce premier film qui fait un peu état du dadaïsme, et après dans les 3 films qui suivent, voilà, on est plutôt sur qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Dada, c'est ça?
Exactement, et on le constate en voyant les 3 films, bon, avec Bruce Nauman, ça c'est complètement évident. Voilà, c'est un artiste très percutant, très brutal en fait. Hein. Et Dada était un mouvement brutal, révolutionnaire. Et puis les deux autres artistes, bon, ils sont peut-être, comment dire, un peu plus, c'est une approche un peu plus poétique dans leur pratique, mais on voit aussi par le mélange des matériaux et la façon dont ils travaillent que cet héritage est important. Voilà. C'est pour ça que ça, en fait, ce choix, les quatre films sont vraiment liés. Ils ont des racines, voilà, communes.
Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a finalement quasiment 20 ans d'écart qui sépare le premier film du dernier, me semble-t-il. Enfin, on est dans des périodes entre les années 70 et fin 90. Pourquoi ne pas avoir élargi justement la question du dadaïsme finalement plus dans les années 2000-2010 est-ce que vous n'aviez pas forcément les réponses à vos questions en regardant des films plus récents, ou est-ce que tout simplement il n'y en avait pas?
C'est tout à fait ça. C'est qu'il y avait, enfin, apparemment Federico manquait aussi de... Il n'y avait pas de film, comment dire, repérable, ou enfin, il n'a pas trouvé en fait des films qui correspondaient à l'époque. Et moi, c'est ce que j'aurais souhaité. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai fait allusion, par exemple, au fait qu'il y ait pas de, que les femmes soient peu présentes dans la sélection, enfin, ou quasiment pas.
Vous avez fait allusion dans la lettre d'information de Peuple et Culture.
Tout à fait. Et j'espère que ça va faire l'objet d'une prochaine programmation, peut-être. Quelqu'un proche de nous, de moi, Pascal Guérin, par exemple, ma compagne, pourrait peut-être s'occuper de cette programmation, ça serait souhaitable. Mais il faudra trouver des films. Et c'est un peu le souci, c'est-à-dire que, voilà, il y a beaucoup de vidéos d'artistes après, hein, d'artistes et des filles qui font des vidéos et qui seraient. Le problème, c'est qu'elles sont montrées en tant qu'œuvres dans des lieux qui sont consacrés à ça. Et qu'ils ne sont pas faits normalement pour être regardés en séance cinéma un peu classique.
Ce sont des films qui sont faits pour être diffusés in situ.
Exactement, voilà. Qui sont posés au mur comme une œuvre, comme un tableau, et qui sont à voir comme une œuvre. Mais c'est peut-être un peu dommage. Je sais qu'il en existe et qu'ils sont vraiment passionnants, quoi.
Une recherche et un nouveau projet, donc l'idée de programmer et faire une programmation dédiée à la place des femmes dans l'art aujourd'hui. Alors, du coup, dans le mouvement dadaïste ou tout l'art contemporain de manière large?
Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est la filiation, évidemment. Voilà, mais après, je pense qu'aujourd'hui, l'art contemporain, c'est tellement un domaine vaste. Et voilà, c'est... c'est intéressant d'y faire vraiment des choix assez quelque chose d'un peu radical, c'est-à-dire d'évacuer peut-être une forme d'hyperconsommation aussi, et puis de se retourner vers des formes plus engagées, et ça existe, ça, voilà.
Et puis aussi revenir à la question de l'image, comment est-ce que l'image sert un propos, comment est-ce que là le documentaire parle, lui, des œuvres et des artistes d'art contemporain. David Molto, je rappelle que vous êtes en charge du relais Artothèque de Peuple et Culture depuis 2007. Vous serez bien sûr présent avec Federico Rossin lors de cette soirée du 19 janvier, soirée lors de laquelle l'art contemporain sera mis à nu par la caméra du cinéma documentaire. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci.
On se quitte avec le titre Beautiful Stranger de Kevin Morby, juste avant de retrouver la chronique en Limousin. If you ever hear that thunder, put your eye to the sky, boy, and wonder. Maybe there's a kingdom above the weather. Oh, and whether you're gonna get on in is up to him. If you ever hear that crying in the distance, like some siren, maybe there's a singer with no ring around their little finger. No love,
And if I lose my voice, if I have no choice but to go quiet, won't you sing for me a melody into the night air? And if I die too young, or if the wolf he comes, fee-fi-fo-fum. And if I die too young, or if the locust come, well then run, 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 free. You do, but you don't got. Say a prayer, think of mother. I am a rock. If you ever hear that sound now, if the door gets kicked in, here they come now. Think of others, their cover. I am what they're not. Pray for Paris, they cannot scare us or stop the music. You got a sweet voice, child, why don't you use it? And if I die too young, or if the gunmen come, I'm full of love. So release me, every piece of me, up above. Sister, can't stand the coppers up in their choppers, all flying overhead 49 day. Singing, oh my Lord, come carry me home. Oh my Lord, come carry me home. I'm singing, oh my God, oh my Lord, oh my God, oh my Lord, oh my God, oh my Lord, oh my Lord. And if I die too young for something I ain't done, carry my name every day. Oh, I'm sorry, oh, I'm sorry, Freddie Gray. But sleep easy, like baby Jesus in a manger. Oh, sleep easy, like little Jesus, beautiful stranger. Oh, beautiful stranger.
Stranger, oh, beautiful stranger.
Kevin Morby avec le titre Beautiful Stranger sur Bram FM dans quelques instants. C'est votre météo de demain, juste avant, à 13h51. C'est l'heure de votre rendez-vous avec la chronique en Limousin. On l'écoute sur Bram FM.
La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine. Le rendez-vous de ses territoires et ses acteurs. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine.
Pour la première fois, la Haute-Vienne va être représentée au Salon de l'Agriculture. Le stand qui accueillera les visiteurs est conçu par les élèves en design du lycée Raymond Lévy de La Souterraine. Parmi les 7 stands proposés pour représenter la Haute-Vienne, celui retenu par Jean-Claude Leblois, président du conseil départemental de la Haute-Vienne, et Annick Morizio, présidente de Nouveaux Horizons, est celui de Clara et Angèle, étudiantes à Raymond Lévy. Nous les écoutons nous parler de ce beau projet.
On a attendu 2024 parce qu'on voulait que notre présence au salon soit partagée, c'est-à-dire avec une envie collective pour faire la promotion d'un territoire, pour faire la promotion d'un savoir-faire. Donc on a travaillé pour avoir l'adhésion de maximum de personnes pour être présents sous forme de stand en 2024.
Jean-Claude Leblois, président du conseil départemental de la Haute-Vienne.
Quel est l'objectif de ce stand en plus de celui du salon?
Mettre en avant les atouts de notre département, les richesses de notre département, les particularités de notre département sur le plan touristique, des savoir-faire, des filières.
Concrètement, qu'est-ce qui va se passer sur le stand?
Alors, ce qui va se passer, c'est que l'on va être présent 10 jours. Une présence physique, 4 personnes en permanence, vous imaginez ce que c'est comme implication. Donc on ne sera pas seul, il y aura des agents du département bien sûr, il y aura des agents de la société publique locale, des producteurs qui seront là pour mettre en avant les filières par thème sur une ou deux journées. Une journée ce sera le cuir, la journée d'après ce sera peut-être les mailles, ainsi de suite. Donc on aura de cette façon-là la possibilité de faire la promotion de notre département.
Annick Morizio, présidente de Nouveaux Horizons.
Quel est l'objectif à court et à moyen terme d'une présence au salon de l'agriculture?
Alors, à court terme, on peut dire qu'on a réussi peut-être la première étape qui était à la fois l'imaginaire, c'est-à-dire nous allons y aller et de quelle manière. Et donc, nous allons y aller en ayant fait travailler des jeunes extrêmement talentueux, et je voudrais vraiment le souligner. Le gros problème du jury, ça a été de faire un choix, et ce choix s'est porté plutôt sur l'adaptabilité en fait du stand dans le temps, puisque à plus long terme, pour répondre à votre question, eh bien, ce sera de continuer à être présent avec cet objectif à la fois de valoriser notre territoire sur ses savoir-faire, et ils sont nombreux. On parle bien évidemment du cuir, de la porcelaine, mais aussi de tout ce qui est dans la production agricole de très grande qualité sur notre territoire. C'est de l'éco-responsabilité, puisque nous allons faire réaliser cette production-là de stands par les étudiants, par des Hauts-Viennois.
Ça fait un an du coup que la marque a été lancée. C'est le premier gros salon. Qu'est-ce selon vos attentes en fait par rapport à ce salon?
Alors c'était le 6 avril, le lancement de la marque Limousin Nouveaux Horizons. Alors bien évidemment, nous avons à cœur de réussir cette première venue. De ce fait, nous y allons avec beaucoup d'enthousiasme, plus que d'appréhension.
Clara et Angèle, les étudiantes choisies du lycée Raymond Lévy.
Qu'est-ce que ça fait de savoir que son travail va être vu par des milliers de personnes?
C'est super impressionnant, on se rend pas compte parce que nous on travaille toujours en classe. On n'arrive pas à se dire que même ça va être fait en volume, à des vraies dimensions, qu'il y a des gens qui vont se mettre sur notre comptoir.
En fait, ça fait très bizarre parce la maquette c'est en soi un petit volume, et du coup de se dire qu'on va vraiment être dedans, marcher, être vraiment dans la maquette, ça fait très bizarre.
On avait beau la penser pour, on n'arrivait pas à se dire, s'imaginer. C'est impressionnant.
Du coup, comment vous avez travaillé dessus?
C'était par étapes, on a une méthodologie avec les profs et on suit les étapes. Après,
on part de très gros en fait, on a ciblé la Haute-Vienne, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur.
Qu'est-ce qui nous intéressait le plus nous aussi, et du coup on a trouvé que c'était le savoir-faire avec les matériaux.
En fait, ce qui est assez drôle, c'est de voir que la maquette qu'on fait aujourd'hui, c'est pas du tout la maquette qu'on avait proposée au début. Ouais. Pas du tout, il y a tout le temps des changements. Et on fait plein de croquis, plein d'idées qu'on peut mettre en avant, comment on peut les mettre en avant au niveau du budget, comment ça peut être cohérent avec notre parti pris.
Et ouais, c'est...
Après, on passe au visuel de finaux, à la maquette. Et,
on y va en faisant le temps. Ouais.
Quelles impressions vous voulez que les visiteurs y retiennent quand ils vont être sur votre stand?
D'en découvrir plus, qu'ils en apprennent sur...
Qu'ils aient envie de venir dans la Haute-Vienne.
Que la porcelaine de Limoges, je pense que tout le monde la connaît, même à l'étranger. Mais montrer qu'on peut faire autre chose, on aimerait ouais, retranscrire
cette idée-là. Et sans parler de la porcelaine, il y a aussi d'autres savoir-faire qui sont présents dans la Haute-Vienne. Et vraiment, c'était le but, c'était les montrer et que les visiteurs aient envie de revenir dans la Haute-Vienne pour vraiment voir ce qui se fait et voir les nouveaux territoires.
Ouais, surtout que c'est fait main, c'est pas fait à la chaîne.
Pour le Graal, Florian Meillac, RMJ.
La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine est à retrouver sur legraal.info. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine.
Il est venu le temps de la météo sur Bram FM et j'ai choisi un titre musical pour accueillir notre Miss Météo dans le studio. Je ne vous dis rien.
Une goutte de pluie tombée sur ton visage.
Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais plus le nom du monsieur, je te le redirai à la sortie.
C'est encore un slow, ça. C'est des trucs pour emballer.
Ah, mais oui, c'est un slow, hein, c'est ça.
C'est pour ça qu'en général, j'entends des trucs comme ça et moi je dis tu danses.
Bah ouais. Ben avec plaisir, surtout sur ce genre de titre musical. Moi, ça me fait quelque chose. Ça
et alors, dis-moi, est-ce qu'on pourrait connaître qui a commis cette chose?
Bah là tout de suite non, parce que je sais pas pourquoi, d'habitude je mets toujours le nom de l'artiste, là il y a juste écrit une goutte de pluie.
Alors une goutte de pluie, moi ça me dit rien comme ça.
Je vais te retrouver ça le temps que tu fasses.
Ça sent la fin des années 60, début 70, je vois bien un chanteur français tout pourri.
Oh,
genre
dur.
Guy Martel. Là,
non,
Guy
c'est pas un Guy. Vas-y, fais la météo, je te cherche oui. Ça.
Alors donc... Demain, mercredi 17 janvier, la météo sera très pluvieuse en Corrèze dès le lever du jour, avec en prime, s'il vous plaît, du vent. Tu sais, le vent fripon, Corrèze, prends garde à ton jupon.
Le vent fripon.
Tout ça devrait durer toute cette journée de mercredi, avec des averses plus soutenues quand même durant l'après-midi, mais un vrai redout dans les températures, oui, de 9 à 12 degrés du nord au sud du département, rien que le matin, et puis pour l'après-midi, écoutez bien, on attend 9 à Égletton, 10 à Ussel et à Trégnac, 12 à Uzère, Chtulle, Beaulieu et Argentat, et jusqu'à 13 degrés à Brive-la-Gaillarde.
Olé !
Alors est-ce que c'est bien, est-ce qu'il faut s'en réjouir ? Je vous laisse le choix de la réponse.
Eh ben, sachant que c'est l'anniversaire de mon petit frère que j'embrasse très fort.
Bah, tiens, moi aussi, je l'embrasse, tiens.
Et que j'ai appris ce matin dans une discussion familiale où l'on échangeait sur l'anniversaire de mon petit frère qu'il faisait ce matin moins 9 degrés du côté de la Bourgogne. Oh, et je me dis, il y a quand même des sacrées amplitudes sur le territoire français.
Carrément.
Et j'ai une autre grande information à vous annoncer, c'est que c'est Jean-Paul Bonnier. Ah non, c'est Simon Collier, pardon, qui a chanté
Collier,
une goutte
c'est
de
joli
pluie.
Comme nom.
Ouais, ouais, c'est Simon Collier.
Il y a un Jacob Collier, mais c'est un Américain qui fait très bien de la musique.
Qui est dentiste. Ah non. Bon, merci beaucoup Miss Météo. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures radiophoniques.
Avec plaisir.
À demain. C'est la fin de cette émission. Un grand merci à Thomas, Élise Picon, Isabelle et David Molto. Merci à vous, auditeurs et auditrices, d'être à l'écoute. Cette émission est à retrouver en podcast sur le site de Bram dans la rubrique Vous êtes ici. La suite du programme sur les ondes à 19h, objectif partage. Moi, je vous retrouve demain avec Cécile qui vient nous parler de refuge pour chats, figurez-vous, et Noé qui questionne notre manière de nous alimenter. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle après-midi à l'écoute de Bram FM, bien sûr. Voilà, très belle après-midi. Bisous.
Yes, light it up, burn it up, hotter than hot, hotter than hot. Take us from the cup, we don't quit till we melt the snow off the mountaintop.